Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Avec votre double actualité littéraire, il y a ce roman intitulé Légende chez Gallimard, et puis un second livre plus personnel, qui fait un peu le pendant d'ailleurs du premier, Agent secret, c'est le titre de ce livre qui paraîtra jeudi chez Mercure de France, dans lequel vous nous invitez à partager vos émotions de jeunesse avant de devenir un écrivain reconnu. Les maisons de votre enfance marquées par l'occupation, vos rencontres aussi, et puis vos amours, photos à l'appui, on va y revenir. D'abord le titre, Agent secret, ça fait référence à vos jeux d'enfance, mais au final, observez le monde, tout en restant un peu caché, vous avez passé votre vie à faire ça.
Je crois que c'est la position d'un écrivain, quoi qu'il arrive, s'il est vraiment écrivain. D'abord, il a l'impression que la nature lui parle de façon secrète, oui. Surtout si l'endroit est particulièrement enchanté. Donc Bordeaux, pour moi, dans l'enfance.
Bordeaux et l'île de Ré.
L'île de Ré, la côte atlantique, celle qui n'est pas polluée par le virus en ce moment, comme par hasard. Donc, voilà. Et ensuite, il y a les rencontres, les situations historiques, c'est-à-dire que pour un écrivain, le déclic fondamental, c'est de s'apercevoir que les adultes mentent, et comme un enfant.
Et vous ne leur ferez jamais plus confiance.
Qui donc se protège et devient un agent secret pour son propre compte, pas du tout pour une puissance étrangère. Et donc, il se protège des adultes qui racontent à peu près n'importe quoi, comme on pourra l'écrire.
Être agent secret pour son propre compte, hein, comme vous le précisez, pour sa liberté, ça exige, écrivez-vous, une perception extrêmement vive de la mort. À quoi peut ressembler votre perception extrêmement vive de la mort? La mort, écrivez-vous.
Eh bien, parce que c'est là où le mensonge social et familial éclate à quelqu'un d'un peu réveillé. La mort, c'est tabou. La mort, c'est un secret honteux. C'est quelque chose qu'il faut dissimuler. Et ô combien actuel. C'est-à-dire que la mort est vraiment quelque chose qui, en principe, renvoyait à un au-delà religieux, etc., une vie éternelle. Là, il n'y a plus de vie éternelle, il n'y a plus rien. Et la mort est devant vous, et est-ce que vous la regardez en face? Et à quoi vous oblige-t-elle, cette vision de la mort, à vous rassembler sur l'essentiel? Et l'essentiel, c'est, pour moi, la littérature, l'art, et comme a dit André Breton, que j'aime de plus en plus, la liberté, l'amour, la poésie, voilà, il n'y a rien d'autre, tout de suite.
Philippe Solers, vous racontez dans ce livre qu'à longtemps dans votre vie, vous avez pensé précéder, la forcer cette mort, et vous n'y pensez plus à ça maintenant, vous la laisserez venir naturellement.
Si j'y pense d'une façon moins tragique.
Oui, mais vous pensiez à un moment donné que vous pourriez vous suicider.
Ah, constamment, oui.
Encore maintenant?
Ah oui, bien sûr. Je ne pense qu'il y avait une douleur intolérable, par exemple. Je n'ai plus d'état d'âme par rapport au suicide. Mais je crois que c'est une liberté considérable qui est laissée à l'être humain, quand même. Donc mourir, par exemple, dans la dignité, me paraît la moindre des choses.
Et vous écrivez dans ce livre que vous avez fait sculpter une rose et une croix,
oui,
pour votre tombe, réservée déjà au cimetière d'Ars-en-Ré. Pourquoi une croix et une rose en même temps?
Parce que ça, c'est
une
formule,
phrase d'Hegel, non?
C'est une formule, oui, du philosophe qui a tout compris, à mon avis, et si, qui est Hegel, qui parle de cette formule, qui parle dans une formule que je trouve sublime, de la roue de la raison dans la croix du présent. Les roses croient. Donc, c'est aussi un signal ésotérique, bien entendu. Mais la rose de la raison dans la croix du présent, c'est-à-dire la croix du présent, c'est vraiment tout ce qu'on voit comme abomination. Mais la rose se lève quand même, voilà, dans la mort.
Agent secret pour ne pas se faire remarquer, mais écrire et publier, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec cette façon de ne pas vouloir se faire remarquer?
Pas du tout. Au contraire, il y a la seule façon de passer inaperçu, c'est d'être perçu constamment. Donc là, on est dans une virtuosité particulière. C'est-à-dire qu'on peut abuser ceux qui essayent de vous user, de vous abuser. Donc, tout le monde me dit dit, mais comment pouvez-vous vous dire réfractaire en étant éditeur chez Gallimard,
anarchiste,
etc. Voilà. Mm. Au contraire, c'est ça qui est l'agent secret, doit avoir des identités insoupçonnables, plusieurs. Donc j'en ai une batterie que j'explique et qui renvoie à des passions profondes pour certaines rencontres et certains êtres humains.
Oui. L'écriture, c'est grâce à votre père ?
Je pense que c'était quelqu'un qui avait décidé, après la boucherie de la Première Guerre mondiale, où il a été très jeune, confronté à l'extermination de masse. Donc il avait décidé de se taire. Et donc son silence m'a beaucoup appris, parce que c'était une façon de rester en retrait de toutes les obligations familiales et sociales. Je l'ai beaucoup écouté se taire. Alors que ma mère parlait très volontiers et même de façon très très humoristique et prolixe.
Votre maison d'enfance est à Bordeaux,
oui.
Et c'est le Bordeaux notamment de l'époque de Papon. Et vous réglez quelques comptes avec François Mitterrand dans votre livre. Il a fallu attendre Jacques Chirac 95 pour reconnaître la responsabilité d'État français dans la déportation et l'extermination des Juifs. Vous en voulez à François Mitterrand de son silence là-dessus ?
Oh ben je crois que on va pas aborder le chapitre Mitterrand qui là, à mon avis, s'efface.
C'est quelques lignes de votre livre.
Qui s'efface tranquillement, oui, de la mémoire profonde. Il y a quelque chose. Il faut jamais oublier que le Front populaire a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Voilà. Donc à la maison, qui était occupé par les Allemands au rez-de-chaussée. Mes parents étant très anglophiles, on écoutait Radio Londres au grenier.
Pendant que les Allemands
là,
étaient en bas.
J'ai 5-6 ans, c'est ça qui a décidé, en quelque sorte, de ma vocation littéraire. Et voici quelques messages personnels. Vous savez, c'est brouillé. Et voici maintenant, les Français parlent au français. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Français parlent au français.
Ça vous a intrigué.
En bas, on parlait allemand. Il y avait des réfugiés espagnols. Et les Français parlent au français. Alors, voici quelques messages personnels pour un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Radio Londres, les Français parlent aux Français. Et voici quelques messages personnels, mais oui, j'écoute. Par exemple, nous aimons les femmes en bleu. Je répète, nous aimons les femmes en bleu. Ou alors, une hirondelle ne fait pas le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà des messages personnels qui déclenchent peut-être un attentat terroriste, comme on disait alors, de la résistance.
Et puis il y a vos rencontres dans ce livre. Une rencontre, vous la qualifiez de rencontre de singularité. Il n'y a pas de rencontre s'il n'y a pas de rencontre de singularité.
Oui, je crois que c'est évidemment fondamental. C'est-à-dire que c'est très mystérieux. C'est-à-dire, vous savez ce que Goethe appelle les affinités électives. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est mystérieux. C'est atomique. C'est très très délicat à définir. Ce sont des singularités. Oui, j'ai cherché à comprendre des singularités. Alors là, il y a en effet des amours très singuliers.
Alors, voilà. Et il y a les hommes. Vous faites et une puis, bonne différence entre les hommes, vos rencontres masculines et vos rencontres féminines.
La question ne se pose pas de la différence des sexes.
Comment ça ? Mais ça, on va en parler. Bien sûr qu'elle se pose, cette différence.
Bien sûr qu'elle se pose, à condition d'être dépassée, parce que sinon, on tourne en rond, comme tout le prouve aujourd'hui.
Ah, les femmes, on va y revenir. Vous n'en citez que trois, bon, celles que l'on connaît, hein, Eugénia, Dominique et Julia. Les plus avouables, écrivez-vous. Et pour la liste complète, eh bien, vous laissez ce travail au biographe. Et la liste sera longue ?
Oui, écoutez, ça dépendra du biographe.
Il faut rappeler, Philippe Solers, que dans les années 80, vous avez écrit un livre très remarqué, intitulé « Femmes », qui était un hymne à la liberté d'un homme.
1983.
C'est
un livre avec une documentation considérable.
Alors, c'est l'histoire
sur ce qui est en train de se passer entre les hommes et les femmes.
Et les femmes, c'est un homme qui aime les femmes, seulement la vie est un enfer, puisque la société est dominée par les femmes.
Pas encore.
Enfin, disons que vous êtes visionnaire.
Ça,
mais est-ce que aujourd'hui on peut le lire comme un manifeste anti-féministe ?
C'est ce que dirait une féministe bornée qui ne lirait pas ce qui est écrit, oui. Mais soi-disant ce qui est supposé être idéologique. La littérature ne peut pas être jugée de façon iste.
Vous avez vécu
communiste, féministe, machiste.
Non, mais vous avez vécu votre vie de façon assez
libre.
Assez libre, on peut dire. Même enfant, vous parlez d'ailleurs d'une forme d'une ambiance incestueuse dans la maison, mais comme ça.
Comme ça, oui.
Il faut définir le comme ça. Étrange famille donc, deux sœurs aînées, une mère, vous avez d'ailleurs toujours, je crois, une photo d'elle sur vous. Vous la nommez la magicienne. Et puis, Éric Delvaux le disait, Eugénia. Puis, il y a eu Dominique Rollin. Rencontre qui a eu lieu alors que vous aviez 22 ans, elle en avait 45. C'est une relation qui a duré toute une vie. Julia Kristeva, psychanalyste bien connue et grand écrivain, grande écrivaine. Coup de foudre à chaque fois.
Oui.
Oui, allez-y.
Coup de foudre, j'aime pas beaucoup l'expression, parce que la foudre, oui, pourquoi pas. Mais je préfère coup de nuit.
Coup de nuit.
C'est plus obscur,
ouais.
C'est plus pénétrant, c'est plus profond. La foudre éclaire trop, la nuit est lumineuse.
Et MeToo, alors, on va en parler tout de même, parce que vous rejetez, on le voit bien, tout communautarisme qui vous paraît imbécile. Vous l'avez dit. Il n'y a que des singularités. Il n'y a pas plus d'inconscient collectif non plus. Alors,
absolument.
À la transparence, vous préférez la discrétion. Est-ce que ces mouvements divers et variés qui surgissent vous irritent au plus profond de vous-même?
Écoutez, la discrétion est une vertu dont l'héroïne de la nouvelle magnifique de Vivant Denon, qui s'appelle Point de lendemain, dit à un moment donné, la discrétion, on lui doit bien des moments de bonheur. Comme on vit dans une société d'indiscrétion générale et de réseaux sociaux très indiscrets, très intrusifs, je suis persuadé, je l'ai toujours été, mais alors de plus en plus, que la discrétion est capitale. Donc qui ne sait pas se taire ou être discret ou glisser agent secret, donc il faut se soustraire à l'intrusion indiscrète de la société qui, en tant que spectacle, propage l'indiscrétion générale.
Mais même en cas de harcèlement, d'inceste,
oui, tout ça, oui.
Mais oui. Vous taisez. Il faut se taire. Enfin, vous vous taisez.
L'abondance de référence à la sexualité, comme disait Queneau avec deux S, sexualité, comme disait Zazie dans le métro, à la sexualité me fait rire. C'est la dernière branche à laquelle essaye de se raccrocher une humanité en péril qui sombre. Donc la sexualité, on ne parle que de ça. C'est ridicule.
Dans votre livre, vous dites que vous n'aimez pas la période aujourd'hui, quelque chose qui ressemble à un désir de totalitarisme. Où situez-vous ce désir de totalitarisme aujourd'hui que vous ressentez?
Écoutez, c'est pas moi qui ai inventé le concept de société du spectacle. C'est-à-dire que tout est réduit à des images extrêmement restreintes et à un discours de plus en plus simplifié. Bon, on en a des preuves chaque jour. Écriture inclusive, simplification, etc. Atteinte au langage lui-même. Donc, il y a là un désir, en effet, de faire totalement la mainmise sur l'être humain. C'est une vieille tendance humaine. Le totalitarisme a eu ses heures de ténèbres.
Bon. Où le voyez-vous aujourd'hui, sans citer Guy Debord, où trouvez-vous ce désir de totalitarisme?
Partout, à chaque instant. C'est-à-dire la simplification dans la morale. La moraline, comme disait Nietzsche, c'est quelque chose qui est à l'œuvre, et tout est jugé selon des critères moraux. Alors que vous pensez que la littérature passe un mauvais quart d'heure.
La littérature ou le cinéma, parce que ça peut être Polanski aussi, ça peut être Woody Allen.
Ça peut être toute forme d'art authentique, enfin bon, et même très, très modeste, très pauvre. Mais enfin, c'est là. C'est-à-dire qu'au fond, si vous interrogez bien cette lancinante dérive, vous voyez que ce qui est chaque fois convoqué, c'est en effet le désir de culpabiliser tout le monde. Moi, j'ai subi toute ma vie des propositions de culpabilité. Et or, je suis désolé, ça ne marche pas avec moi.
Agent secret, ce livre très personnel que vous signez, Philippe Soler, avec pas mal de rencontres. Il a de très belles pages sur Lacan, sur Barthes. Je voudrais citer votre rencontre qui vous a impressionné, c'est celle de Georges Bataille. Vous dites, il m'impressionnait, mais pour quelle raison? Pour sa critique de la modernité, justement?
Écoutez, j'ai 18 ans, je vis à Bordeaux, je rentre dans une librairie en désordre, je vois un livre par terre qui allait être probablement liquidé, et je vois le titre, ça s'appelle « L'expérience intérieure ». L'auteur, c'est Georges Bataille. Je m'empare de ce livre parce que je me demande ce qu'est l'expérience intérieure que je vis à ce moment-là. Je vais être enseigné par un autre qui, d'ailleurs, me parle immédiatement de Proust, de La recherche du temps perdu. Ça y est, c'est parti. L'expérience intérieure, voilà le problème. Donc, quand Bataille apparaissait avec tous les débordements qu'il a commis, c'est-à-dire par-delà le bien et mal, comme disait Nietzsche, faire la morale à Bataille, oui, ça... Non, il était sacré, d'une certaine façon, et c'est un des plus grands écrivains français, trop oublié, d'après moi, il faut le relire, le lire, et il était entouré de figures extrêmes, Sade notamment.
Georges Bataille est mort en 62, et un an et demi avant sa mort, il a donné un entretien à Madeleine Chapsal. Alors, pour les plus anciens, Madeleine Chapsal, c'est une journaliste qui était aux Échos et puis à l'Express.
Une voix très douce, très nuancée. Vous avez sa voix?
Oui, alors je l'ai pas, non. On n'a pas sa voix enregistrée ce matin.
S'est dit que vous étiez trop bavard pour qu'on puisse ajouter une voix
c'est
à
vrai,
la vôtre.
Je suis trop bavard.
Bataille, voilà, Georges Bataille, Georges Bataille disait à Madeleine Chapsal, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir brouillé les cartes. C'est-à-dire, avoir associé la façon de rire la plus turbulente, la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l'esprit religieux le plus profond, on a l'impression de vous lire.
Oui.
C'est un peu votre signe de vie aussi, ça.
Eh bien, oui, c'est vraiment quelqu'un à qui je pense très souvent, dans cet ordre de logique nouvelle.
Un mot sur la poésie, peut-être aussi?
Oui,
la poésie
sûr.
Que vous citez beaucoup, hein, beaucoup Rimbaud dans votre livre, comme d'habitude j'allais dire, comme souvent en tout cas. Hugo aussi, en quoi la poésie comme valeur refuge?
Non, en tant que... Non, refuge sûrement pas. En tant que valeur de risque permanent, d'essentiel. Refuge, non, la poésie comme refuge, non, la poésie comme attaque. Comme guerre. La poésie, c'est toujours la guerre, disait Mandelstam, très grand poète, persécuté par Staline.
La poésie de l'homme sauvage que vous êtes. Et puis, il y a un autre livre dont on n'a pas beaucoup parlé, pas du tout, même depuis le début de cet entretien, c'est Légende. C'est donc un roman. Alors, on parlait de Victor Hugo, je ne sais pas si ça a à voir avec la légende des siècles, toujours est-il
oui.
que... Si, hein. Légende, c'est la mémoire perpétuelle de celui qui devient une légende.
Qui se raconte qu'il devient une légende, on n'est pas obligé de le croire, puisqu'il y a roman quand même sous le titre, mais qui essaye de voir si sa vie a eu raison d'être. C'est le moment où on pose un peu la question sur la table. Est-ce que j'ai eu raison ou pas de vivre comme je vis? Alors, socialement, j'ai eu tort, c'est sûr. Rester libre, bousculer la morale, j'ai tort. Mais quelque chose me dit, et c'est précisément la poésie, tiens bon, tu as eu raison, et tu as raison.
Eh bien cette raison, on la lira dans vos deux livres. Agent secret, livre très personnel, hein, qui sortira jeudi chez Mercure de France, et également ce roman, Légende, chez Gallimard. Nouvelle revue française. Merci beaucoup Philippe Solers d'être passé ce matin par France Inter. Il est 9h20.